Aujourd'hui, cette discussion d'ingénieur, elle va te plaire si tu t'intéresses au sujet de l'entrepreneuriat, du conseil, des startups, de l'écologie, de l'environnement. Tout ça car on va parler avec François Desbovés, qui est un ingénieur centralien qui a travaillé 2 ans chez McKinsey en sortie d'école, puis qui a tout quitté pour aller lancer sa startup dans le domaine de l'écologie. Notamment, il travaille sur les emballages recyclables, sur la réutilisation, le réemploi de la vaisselle dans les restaurants. Par exemple, tu as sûrement entendu parler de McDonald's qui est passé à la vaisselle réutilisable. Eh bien, il les a conseillés lors de ce passage. On va donc parler de sa démarche sincère, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça, puis aussi de comment il a utilisé le réseau pour rencontrer son cofondateur, trouver des idées. Enfin, on fera une petite parenthèse sur le titre de 30 Under 30, qui est un titre délivré par Forbes, le magazine américain. Et vu qu'il l'a eu, on va démystifier tout ça. Ça se passe comment, les nominations, le process de sélection. Et si toi, tu as moins de 30 ans et que tu veux y postuler, comment faire? Très bonne écoute à vous, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ou qu'est-ce qui t'anime par rapport à la startup?
Mon quotidien, c'est, je dirais que c'est de, bah c'est quand même de résoudre un gros nombre de problématiques, d'une part, et de convaincre des gens. Enfin, ma mission, moi, je la vois comme ça en tant que fondateur ou directeur, c'est de convaincre. C'est de convaincre des gens, c'est de convaincre des clients de travailler avec nous, c'est de convaincre des salariés talentueux de nous rejoindre, c'est de motiver nos partenaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on livre la meilleure qualité de service. C'est convaincre et résoudre aussi tout un tas de problématiques parce que tout ce qui se passe bien, généralement, bah on n'a pas besoin de moi, quoi.
Tu aurais un exemple justement d'un exemple de mission où on est venu te voir, ou en tout cas le problème est remonté jusqu'à toi, et voilà, ça ne marchait pas, et toi, il a fallu que tu ailles résoudre
Ouais,
justement un
bien sûr.
problème, convaincre quelqu'un.
Bien sûr, c'est pas toujours ultra. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas toujours ultra glorieux ou c'est pas les trucs les plus dingues. Ça arrive évidemment d'un point de vue aussi, bah, non seulement d'un point de représentation, mais aussi responsabilité. Quand il y a des meetings, on travaille avec des grands groupes. Bah, évidemment, quand il y a des, il peut y avoir des sujets autour. On travaille sur le déploiement de solutions de vaisselle réutilisable pour remplacer les emballages jetables. On travaille beaucoup du coup dans la restauration collective avec des très gros acteurs en France. Bah, si on a voilà, des clients qui vont avoir des besoins un petit peu nouveaux ou qui vont pas assez vite par rapport à ce qu'ils aimeraient pour des raisons multiples, bon bah c'est moi ou mon associé qui convoque et puis on va essayer de trouver bah, voilà, comment est-ce qu'on accélère la roadmap de déploiement, sachant que c'est à chaque fois, nous on n'est pas une solution, on a une partie de logiciel sur la partie de gestion de stock, mais il y a une partie très concrète dans notre métier où on amène de la vaisselle. Donc en fait, on dépend d'un écosystème de partenaires et d'acteurs. Cette vaisselle, elle est produite par des industriels qui doivent la livrer. Il y a toute une communication, une conduite du changement, il faut se mettre d'accord avec les sites. Donc, le but, c'est de trouver ces solutions-là. Il y a des aspects un petit peu stratégiques, mais il y a aussi plein d'aspects. Tu vois, ça m'arrive, enfin, cette année, on a organisé un certain nombre d'événements, parfois avec des clients, parfois en interne. Bah, ça m'arrivait d'aller faire des courses chez Metro pour acheter la bouffe pour tout le monde, quoi. Parce que, bah, voilà, il se trouvait que j'avais une voiture, qui, puis de toute façon, il fallait que quelqu'un le fasse, quoi. Donc, c'est tout un tas de petites choses comme ça, parfois très très structurantes, prendre la décision d'un recrutement, qui est-ce qu'on recrute, on a deux profils qui sont vraiment top, il faut se faire une conviction, donc comment est-ce qu'on gère ça, et puis parfois c'est des choses, et souvent même d'ailleurs, qui sont ultra, juste ultra opérationnelles et très très concrètes, puis d'une part j'aime ça, je pense, et je pense que ça reste, enfin finalement ça dure longtemps, quoi. Bon, évidemment, je pense que dans des très grosses boîtes, enfin au bout d'un moment, peut-être en centaines de salariés, milliers de salariés, on arrête un petit peu de faire ça, mais en même temps, ça ramène les pieds sur terre et puis ça permet d'être ancré dans son quotidien, quoi.
Ouais, t'es pas dans une tour d'ivoire, t'es justement, t'es au contraire, t'es avec les équipes, au concret, et dès qu'il y a des gros problèmes, c'est là où tu vas être nécessaire et tu vas pouvoir aider et supporter les gens dans ton équipe.
Ouais, parce que je pense que c'est pas parce qu'on est, enfin c'est pas une question d'être plus intelligent ou même plus expérimenté, c'est aussi une question de, je pense, d'avoir une vision globale et en fait d'avoir ce recul déjà par rapport au quotidien, typiquement sur des sujets de déploiement client. On a des clients qui doivent déployer 400 restaurants. Bon bah voilà, il y en a. Il y a un rythme, il va falloir doubler, tripler le rythme quotidien ou mensuel de déploiement. Comment est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on a une vision, enfin, j'ai une vision un petit peu plus globale aussi, parce que je vois toutes les fonctions de l'entreprise. J'ai un petit peu plus de recul aussi au quotidien par rapport aux personnes qui travaillent en direct sur ces sujets, ce qui est normal. Et du coup, j'essaye en tout cas d'avoir ce rôle-là aussi, de ne pas arriver après avec forcément avec la solution. Bon, bah, on va faire ci, on va faire ça. Parce que ce n'est pas moi qui laisse souvent les équipes ou nos clients. ou nos partenaires, mais les aider en tout cas, ou aider tout le monde à formaliser cette solution-là, tout simplement en leur permettant de dialoguer ou de faire un petit pas en arrière, et de se rendre compte que la direction ou la façon qu'on avait de faire était peut-être pas la bonne et qu'il fallait changer une méthode ou deux, quoi.
Ouais, et tu parles de vision globale justement pour pouvoir apporter cette plus-value avec ce recul. La vision globale, c'est un élément qu'on associe généralement aussi avec les consultants, ce que tu as été auparavant, puisque tu as commencé après Central Supélec, tu es allé directement chez McKinsey. Et après 2 ans, tu as fondé ta start-up. Et une question qu'on peut se poser, que beaucoup de personnes aussi me posent, c'est quand tu sors d'école, que tu vas devenir consultant, on dit en général, tu peux faire tes 3 ans, prends un grade et ensuite peut-être 2 ans de plus pour manager des équipes. Et ensuite, tu pourras faire une transition, aller dans un poste plus ou moins haut dans des grandes entreprises. Et toi, tu as choisi un autre chemin. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait vouloir créer ton entreprise à ce moment-là? Est-ce que c'était parce que tu avais vu des choses au sein de ce cabinet en faisant des missions avec des clients, par exemple, tu t'es dit, il y a un besoin et je vais le faire? Est-ce que c'était une mission que tu avais avant depuis que tu étais jeune? Ou comment est-ce que ça s'est produit cette transition? Ou est-ce que c'était facile à faire?
Écoute, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Ça n'a pas été très très compliqué, enfin de manière assez transparente. Pourquoi? Parce que déjà j'avais une certaine sécurité entre guillemets de par mon diplôme, de par mes expériences professionnelles. Donc j'avais pas d'énormes risques à quitter mon employeur. Par ailleurs, en France, et ça c'est vrai que c'est assez chouette, j'ai pu obtenir une période de chômage, donc ça m'a permis encore de diminuer mon risque. Après, ça a été malgré tout un processus assez qui est jamais évident, qui a été assez long de réflexion. Moi, j'avais fait des études d'ingénieur, je m'étais spécialisé, de manière un petit peu macro en énergie et de manière plus spécifique en procédés. En génie des procédés et énergétique. Donc, j'avais cette, je pense, enfin, j'ai toujours été intéressé par toutes les problématiques liées au domaine de l'énergie, à l'environnement, et peut-être un peu plus spécifiquement, et c'était dans 2017, 2018, à l'écologie, qui étaient des sujets qui étaient déjà présents, mais qui devenaient de plus en plus présents. Moi, ça faisait 2 ans que je faisais du conseil, j'avais adoré, j'ai appris énormément de choses, ça m'a servi à vraiment à grandir, notamment sur des problématiques qu'on voit peut-être un petit peu moins en école d'ingénieur, sur des aspects plus business, plus stratégie. Et j'avais, au bout de 2 ans, en tout cas, j'estimais être arrivé au bout d'un certain cycle. Il me restait évidemment plein de choses à apprendre, mais j'avais l'impression que dans mon métier de consultant, voilà, les choses que je voulais, que je voulais récupérer, je les avais prises. Et j'ai commencé à avoir cette envie. Surtout de me spécialiser un peu plus et de mettre mes compétences au service d'une cause qui me semblait intéressante. Ça dépend évidemment des cabinets, je ne vais pas faire de généralité sur le conseil, mais en tout cas dans les gros cabinets de stratégie ou généralistes, c'est généralement un petit peu compliqué ou pas évident de se spécialiser tôt. Et tôt, c'est avant 3-4 ans d'expérience. Moi, je n'avais pas envie d'attendre ce moment-là. Je voulais, au bout de 2 ans, je me disais, bon, je suis prêt, entre guillemets, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le conseil, et si on ne me permet pas de le faire en interne, j'allais créer ça, créer mon activité, pour pouvoir mettre tout ce que j'ai appris au service d'une cause qui me semblait importante, et qui est l'écologie et l'environnement.
Et comment tu as trouvé l'idée de la startup juste enfin, à ce moment-là? Parce que tu es dans le conseil, tu fais des missions qui sont très prenantes. Et corrige-moi si c'est pas le cas, si c'est pas le cas ou si c'était pas ton expérience. De ce que je comprends, le conseil, tu vas faire des semaines à 60, 70, 80 heures par moment, voire plus, selon les clients et les missions. Comment est-ce que tu trouves le temps et qu'est-ce qui te fait dire c'est ça que j'ai envie de faire? Comment tu as trouvé cette mission pour ton entreprise? Petite pause. Si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande. Ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà, merci beaucoup, bonne écoute, on reprend.
C'est pas facile. Clairement, j'avais pas le temps d'y réfléchir quand j'étais encore en consultant. J'ai souvent eu une. Enfin, souvent, voire toujours eu une approche assez séquentielle. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand j'étais consultant, je me disais, bon, bah, je finis mon expérience et mon parcours de consultant de la meilleure manière possible. J'avais pas envie de faire deux trucs en même temps parce que je vois un trop gros risque à faire plusieurs choses, de mal les faire. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné de manière un petit peu plus séquentielle. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je termine mon expérience de consultant de la meilleure manière que je peux, en obtenant, par exemple, voilà, une période de chômage qui va me permettre de sécuriser après, en finissant bien toutes les missions que j'ai à faire, en continuant de bien faire mon métier ou de mieux que je peux. Et une fois que je suis sorti, du coup, que j'ai fini, je McKinsey, c'est pas simple parce qu'on se retrouve, en fait, un vendredi soir, on rend son ordinateur, et puis le lundi de la semaine suivante, bah, on n'a plus de bureau, on n'a plus de collègues, on n'a plus de machine à café. Moi, mon objectif, je me suis dit, ça a été d'être. Enfin, voilà, j'ai pris une semaine ou deux de vacances, évidemment. Puis après, ça a essayé de créer des opportunités parce que je n'avais pas une idée particulière. J'avais cette envie que j'avais identifiée des mois auparavant de mettre mes compétences au service d'une cause qui me semblait importante. Après, est-ce que c'était enfin, l'écologie, l'environnement, le social et puis quand on dit environnement, il y a mille trucs à faire, évidemment, pour la planète. Je ne savais pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer de rencontrer tous les jours de la semaine quelqu'un. Donc, je me suis mis à revoir plein de gens de mon réseau. Les gens que je rencontrais, je leur demandais s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait être pertinent ou utile dans cette démarche de, voilà, je savais que grosso modo, je voulais créer une entreprise, grosso modo, dans le domaine de l'environnement. Et donc, j'ai créé plein de, enfin, voilà, je me suis mis à revoir plein de gens. J'étais surpris de la disponibilité des gens, de la variété des parcours. Ça paraît peut-être évident, mais en fait, déjà 2 ans après la sortie de l'école, il y avait des gens qui faisaient des choses très, 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 très variées de développeurs à créateurs d'entreprises à directeurs artistiques dans des milieux plus créatifs.
Et donc c'était que des personnes qui sortaient d'école d'ingénieur que tu as re rencontrées, c'était des gens de ta promotion ou tu as contacté des gens sur LinkedIn, c'était quoi un peu la démarche à ce moment-là?
Ouais, ça a été évidemment déjà le réseau, on va dire le premier, donc le réseau d'école hein, de promo, celui qui marche très bien et même sans l'avoir beaucoup entretenu, on va dire après, les gens se souviennent et puis il y a ce côté un petit peu d'accessibilité, hein, évidemment. Donc ça a été le premier cercle, on va dire. Puis en fait, après, de fil en aiguille, ça marche, enfin voilà, sur LinkedIn, tout le monde ne répond pas, mais on se rend compte que quand on a une démarche en tout cas sincère et qui va dans une cause. Qui est intéressant. Enfin, ça peut être voilà, trouver sa vocation. Ça peut être avoir des conseils un petit peu plus concrets ou techniques, avoir un avis sur un secteur d'activité ou un marché. Les gens généralement sont assez disponibles et puis après ça va de juste un call de 30 minutes à un café ou un déjeuner. Donc c'est pas non plus très très, enfin évidemment très engageant. Mais ça m'a donné en fait déjà ça m'a donné plein d'idées. Ça m'a permis de revoir camarades de promo notamment avec qui finalement j'ai fondé Pixo 4 mois après. Et ça a
D'accord.
commencé comme ça, en disant, écoute, Ben, on avait déjà bossé sur un projet en dernière année. Je savais qu'il était resté un petit peu dans le milieu de l'entrepreneuriat. Puis j'ai pris un café avec lui pour avoir son expérience perso au début. Puis en fait, le courant passait toujours bien. Puis je l'ai tenu informé de moi ce que je faisais. Alors à côté, je travaillais sur quelques preuves de concept. J'essayais de creuser des marchés, d'essayer de voir où est-ce que il y avait potentiellement un problème important et une solution qu'on pourrait apporter. Puis au bout de 4 mois, en fait, c'est mon associé qui arrivait avec cette idée en me disant, mais écoute, je sais que tu te renseignes pas mal sur tout ce qui est environnement zéro déchet, qui arrivait aussi un petit peu, commençait à parler de zéro déchet, en tout cas en France. On était au tout début, hein, les combats, c'était vraiment arrêter les bouteilles d'eau en plastique et prendre des gourdes, ce qui est une évidence aujourd'hui, mais il y a 6 ans, c'était encore un sujet. Et il m'a dit, écoute, je faisais mon footing là, dans un parc à Paris, il était 14 h en été, les poubelles, elles débordaient de déchets. Et en fait, c'est un peu abusé qu'on utilise des bols à salade pour aller manger pendant une pause déj de 2 heures, quand on sait que ces mêmes bols sont en fait pas recyclés, ou très très peu, malheureusement trop peu, et qu'il y aurait une solution simple, ce serait de mettre de la vraie vaisselle, des bols réutilisables en verre, les gens les ramènent, ils sont lavés, et puis ça redémarre. Et donc l'idée, en fait, ça a été cette conjoncture où moi, je venais chercher un petit peu son expérience, puisque lui, il avait monté une boîte en sortie d'école. Après, il avait travaillé dans un grand groupe. Je voulais récupérer, enfin voilà, essayer d'avoir plus d'infos, savoir comment ça s'était passé. Et puis lui, à l'inverse, il était sensible évidemment à ces causes-là, à l'environnement, à l'écologie. Du coup, on a fini par matcher comme ça. Mais ça a pris, tu vois, je suis parti, moi, de McKinsey, c'était en juin. Et donc, on a commencé vraiment à bosser sur la boîte en août-septembre, quoi. On a eu l'idée qu'en août. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais du coup, ça a été assez, ça a vraiment été une démarche finalement sincère, je pense. Et peu intéressé. Et ce qui a fait que derrière, tout s'est assez vite enchaîné, je pense, et a bien, bien fonctionné.
C'était comment d'ailleurs le début pour Pixo? Parce que entre l'idée et avoir ce qu'on appelle le market fit, quelque chose qui marche vraiment, C'est en général, c'est très difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de startups qui échouent avant d'avoir trouvé un certain market fit. Comment s'est passé pour vous cette recherche du produit, c'est-à-dire ici, de la vaisselle que vous allez livrer? Donc, comment est-ce que ça s'est passé? C'est ces premiers clients qui vous ont permis de tester l'idée et d'avoir quelque chose qui marchait?
Ouais, c'est super compliqué. Sur des marchés qui sont naissants, c'est encore plus dur. Je pense que créer une entreprise, c'est toujours difficile. Passer de vraiment du zéro au 1 euro de chiffre d'affaires, au 1 salarié, au 1 client, c'est toujours super dur. Et en plus, dans les startups, bah, quand on crée un marché, c'est encore plus compliqué que créer une boulangerie ou un salon de coiffure qui est déjà très dur. Une bonne boulangerie ou un bon salon de coiffure, c'est déjà pas évident. Alors, quand on est sur un marché comme la vaisselle réutilisable qui est naissant, qui existait déjà un petit peu sur certains types d'événements, par exemple tout ce qui est événementiel, avec EcoCup, ça existait déjà. Mais nous, on voulait l'amener sur de la restauration à emporter, sur de la restauration d'entreprise, de cafétéria. Donc, c'était complètement nouveau. On a eu une vision au début qui nous a suivis. Et je pense qu'on a eu de la chance là-dessus, c'est que notre vision, on se disait que le réemploi et l'écologie de manière globale, ça fonctionnerait si on faisait quelque chose qui était mieux pour les consommateurs, qui était soit plus simple, soit moins cher, soit mieux en termes de qualité, mais il fallait que les gens l'utilisent parce que c'était mieux, et pas uniquement parce que c'était écolo, avec du coup un premium sur le prix ou quelque chose de moins simple. Cette vision de réussir à faire du réemploi, enfin, avant tout, mieux pour le consommateur. Dans la réalité, c'est super compliqué parce que l'emballage jetable a été optimisé pendant 50 ans. On a optimisé toutes les filières derrière. Donc, il s'avère que c'est un combat qui est juste énorme.
Et quand on dit optimiser, pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi optimiser, surtout en termes à la fois de production, mais de coût. Et donc, c'est très peu cher pour les restaurants et les chaînes de passer d'une solution, comme tu as dit, d'optimisation qui est pas chère du tout à quelque chose qui potentiellement peut coûter plus cher. Et est-ce que c'est vraiment pratique? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser qui n'a pas été prouvé?
Ouais, c'est ça, on est dans une économie linéaire qui pose énormément de problèmes. On le voit aujourd'hui, la COP28, il y a un mois. Enfin, ça pose énormément de problèmes ensuite. Mais sur le moment, bah, on a des usines qui produisent des emballages recyclables, mais qui sont malgré tout jetables, qui sont ensuite achetés par des restaurateurs, des distributeurs, qui sont distribués à des consommateurs, qui n'ont pas de responsabilité, du coup, ni en tant que restaurateur, ni en tant que consommateur derrière. Enfin, moi, en tant que consommateur, j'achète un Mars demain dans un Monoprix, l'emballage de ma barre de céréales, j'ai aucune responsabilité, enfin j'ai une responsabilité morale et légale un petit peu de pas le jeter par terre, mais bon après j'ai pas de responsabilité de le recycler par exemple, j'ai la responsabilité de le mettre dans une poubelle et en fait les poubelles dans la ville de Paris c'est pas des poubelles de recyclage, c'est pas les poubelles jaunes qu'on a chez soi ou les poubelles d'ordure, donc en fait c'est pas recyclé derrière. Et donc on a déresponsabilisé un petit peu aussi tous les acteurs pour du coup permettre une consommation qui soit ultra décomplexée et très simple, mais ce qui amène évidemment bah, après les problèmes de pollution, les problèmes de pollution à tous les niveaux, quoi. Donc on a dû vraiment changer enfin on a essayé de jouer sur les avantages, mais ce qui a fait que notre produit a beaucoup évolué aussi en écoutant nos clients. On est passé d'une solution au début, on se disait on n'a pas du tout besoin de technologie par exemple. On veut vraiment essayer de faire quelque chose d'assez simple, parce que si c'est simple, ça coûtera moins cher. On avait cette intuition-là, donc on met à disposition de la vaisselle qui est utilisée. Donc on est passé de cette première version qu'on a vendue assez tôt en fait, à l'ancien employeur de Benjamin. Il travaillait chez BNP dans une filiale de BNP à Paris à l'époque, qui avait un besoin de, enfin voilà, qui avait cantine d'entreprise, une cafétéria, qui utilisait de la vaisselle jetable. Ils se sont dit, bah, très bien, on met du réutilisable, du réemploi. Ils nous avaient confié la gestion de ça. Donc, comment on informe les consommateurs, amener le matériel, leur vendre. Enfin voilà, on avait fait toute une prestation de service là-dessus. Donc, assez tôt, on a eu ce premier client. Mais après, on a évidemment énormément évolué. On a travaillé beaucoup en 2019 sur la restauration collective. En 2020, on a complètement arrêté à cause du Covid, parce que la restauration collective s'est retrouvée en grande difficulté.
Quand tu dis juste restauration collective, tu veux dire quoi par là? C'est le mot mais plus trop
Les
familier.
Sodexo, Elior, pardon, ouais, c'est
D'accord,
les
ouais.
vraiment, c'est les cantines d'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a la cantine avec pour tout ce qui est le repas, donc comme on connaît avec un plateau, une assiette, et on a les Crous aussi avec qui on travaille, donc sur un peu sur
D'accord,
le
ouais.
même modèle. Mais ces sociétés ont développé, et notamment depuis le Covid aussi beaucoup, des offres un petit peu plus nomades, donc de vente à emporter, de salade bar, qui génèrent des déchets, quoi. Et donc, elles se retrouvent confrontées à, d'une part, parfois, des clients qui sont peu satisfaits, des sociétés pour qui c'est important, parce que même si dans l'impact environnemental d'une société du CAC 40, on ne va pas se mentir, les gobelets en carton utilisés dans les machines à café, dans leur tour à la Défense, ce n'est pas énorme. Mine de rien, ça compte quand même. Et puis, d'un point de vue image, et messages qu'on envoie aux collaborateurs, c'est très important. Parce que voilà, on a des clients, je ne donnerai pas de nom, mais on a vu des sites d'entreprise où, en fait, c'est mathématique, hein, 2000 salariés sur le site qui prennent tous 2 cafés par jour, ça te fait 4000 petits gobelets en carton qui sont jetés.
Tous les
À la fin
jours.
de l'année, 500 000, 1 million de gobelets en carton qui sont jetés. On essaie de les recycler, mais c'est difficilement recyclable, parce que même si c'est du carton, à l'intérieur, un petit peu de plastique, donc il faut séparer le plastique du carton. Voilà, ça. Tout de suite, c'est des chiffres qui sont assez vertigineux, avec des solutions derrière qui sont pas forcément très très compliquées, mais malgré tout qui demandent à tout un tas de monde de changer. Il y a nos clients directs, donc des sociétés comme Sodexo, comme les Crous, qui au lieu d'utiliser les gobelets en carton, bon, elles vont devoir reprendre des gobelets en plastique ou des petites tasses en verre. Les consommateurs qui vont, au lieu de les mettre à la poubelle n'importe où dans l'entreprise, ils vont devoir les ramener. Généralement, on essaye de créer un certain nombre de points assez pratiques d'accès, mais il n'y en a jamais autant que les poubelles de bureau, par exemple. Donc, les collaborateurs doivent les ramener, puis après, ça doit être nettoyé. Donc, tout le personnel aussi après derrière qui fait l'entretien doit s'en assurer. Enfin, voilà, il y a toute une logistique, une conduite du changement à mettre en place. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'on passe de cette économie linéaire qui était un assez peu responsabilisante, je trouve, à une économie circulaire où on va devoir ramener en fin d'utilisation, du coup, et puis en fin de vie, le contenant pour qu'il puisse refaire un cycle, du coup, être lavé, réutilisé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit usé, ce qui est assez rare parce que la durée de vie d'un verre, même en plastique, d'une tasse en céramique, c'est des dizaines d'années potentiellement ou des milliers d'utilisations, quoi. La principale cause de fin de vie, ça va être finalement des consommateurs qui les rendent pas, qui les gardent pour ramener chez eux ou parce qu'ils ont oublié ou ça traîne sur un bureau. C'est ça finalement la finalité principale, quoi.
Non, je vois très bien en quoi le réemploi peut être une énorme solution. Comme tu as montré l'exemple, hein, juste sur un bureau avec 2000 employés, ça fait à 1 demi-million, voire 1 million de tasses à la fin de l'année. Enfin, quand c'est pas en plastique justement, mais en one time use, en usage simple, unique. Vous avez eu le premier client avec BNP parce que ton collaborateur Ben travaillait pour eux à ce moment-là. C'était un premier contact plus facile. Comment est-ce que ça s'est passé le moment où vous êtes arrivé avec la première entreprise de restauration collective, que ce soit pas forcément Sodexo, mais tu n'as pas besoin de donner des noms d'ailleurs, et ça peut être un exemple un peu anonymisé si tu le souhaites. Mais comment s'est passé ces premières interactions avec des grands groupes qui vous voient arriver, où vous n'avez pas forcément, vous êtes peut-être un pilote, mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre un groupe qui fait des milliers de sites de vous permettre de faire un pilote avec eux? Comment ça se passe cette première rencontre avec un grand nom au final qui fait ensuite potentiellement la différence pour aller voir les autres en disant, une fois que tu as un gros nom sur ton. Comme client, c'est sûrement plus simple d'aller voir les autres, mais le premier gros client, comment vous avez fait cette étape-là?
Ouais, c'est évidemment, c'est vraiment pas facile. Nous, cette étape-là, on l'a fait. Déjà, comment trouver les clients? Bon, on a trouvé un problème. On a déjà trouvé un problème, c'était pas mal. Ce problème, ensuite, il avait différentes sources. Typiquement les déchets on s'est assez vite focalisé quand même sur les déchets dans la restauration. Donc après, il y a des restaurants d'entreprise, il y a des cafétérias. Bon, il n'y a pas 50 000 cibles finalement potentielles. Il y a les fast-food, il y en a quelques-unes qu'on pouvait pas du tout aller chercher. Par exemple, aujourd'hui on travaille, mais parce que la législation a évolué en 2023, et donc il s'est retrouvé qu'on travaille avec McDonald's.
Ouais.
Mais au début, on ne s'est pas dit, bah, on va aller envoyer un mail au siège de McDonald's France, ils nous auraient jamais répondu, quoi. Même les sites d'entreprise, finalement, ça s'est fait un petit peu comme au début, pour trouver une problématique, pour trouver une idée, trouver un associé. Ça a été vraiment de la sérendipité, du réseau. Nous, on a fait. Donc, le premier client, le vrai premier client BNP, c'était l'ancien employeur de mon associé qu'il était allé voir. Ensuite de là, on a commencé à déjà être un petit peu visible, avoir une petite solution, avoir un petit truc. Ça nous a permis, on a participé à un certain nombre de concours. On en a gagné quelques-uns. On a gagné un concours notamment avec La Poste qui nous a permis d'aller sur un salon à Vivatech, donc un salon lié autour de la tech et des startups à Paris. Sur ce salon, en fait, on était juste en face du stand de Sodexo. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs de Sodexo qui sont venus. Ça nous a permis, du coup, de rencontrer des nouveaux clients. Ça nous a permis de rencontrer aussi des investisseurs. Ces investisseurs advisors, parce que c'était au début, c'était pas tant le capital dont on avait besoin, mais c'était, enfin, évidemment, c'était du capital, mais c'était aussi de l'expérience, des contacts, un réseau. Nous ont permis de rentrer en relation aussi avec un certain nombre de clients. Et puis après, une fois qu'on avait les contacts des clients, il s'est avéré que le besoin sur lequel on avait mis le doigt soit assez juste. Après, la façon dont on l'avait résolu avec BNP, par exemple, on était vraiment sur un petit site, il y avait une soixantaine de collaborateurs. Avec Sodexo, on parlait, en fait, eux, ils avaient la problématique sur justement une entreprise du CAC 40 qui avait un site de cadre, donc vraiment un site d'ingénieurs. Il y avait à peu près 2000, 2500 ingénieurs tous les jours sur le site, quoi. Donc, ils avaient cette problématique de déchets, parce que leur client, lui, leur disait, vous êtes sympa, Sodexo, mais en fait, ça me génère une quantité de déchets, puis en termes d'image, on pollue, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc. On le voit, ça remplit les poubelles. On aimerait bien faire quelque chose. Et donc Sodexo était très content d'avoir trouvé une start-up qui du coup avait de la disponibilité, avait du temps, des idées pour trouver une solution. Après, on a travaillé. Alors entre le premier rendez-vous qu'on a fait sur ce cas d'usage-là, sur ce site, c'était en août. Et le contrat, on l'a finalisé en février de l'année suivante. Donc ça prend du temps.
Ah ouais.
Pas sur les mêmes. C'est ça qui est difficile aussi quand on est une petite entreprise, c'est que nous, en fait, on était disponible à 100%, mais Sodexo, eux, ils gèrent un restaurant qui emploie 60 salariés, leur client aussi, il a sa roadmap. Enfin, en fait, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Mais bon, vu qu'on en avait plusieurs, mine de rien, on a toujours quelque chose à faire, parce qu'on n'avait pas que un client, on en cherchait d'autres, on travaillait sur d'autres projets. Et ce qui a été dingue, c'est que du coup, en février, on avait fini le contrat, et en mars, il y avait le confinement en France, premier confinement. Donc évidemment, clause exceptionnelle, votre service de réemploi, ça sert à rien de le déployer parce qu'il n'y a plus personne qui vient et on ne sait pas quand est-ce que les gens vont revenir. Sodexo avait très peu de visibilité, donc on s'est retrouvé en fait le bec dans l'eau complètement en mars-avril, quoi. C'est dit bon, en fait, on n'a plus du tout de clients parce qu'on avait fait, il se trouvait que nos principaux clients étaient devenus en restauration collective. Ça n'était pas évident à prédire. Aujourd'hui, on fait très attention typiquement à se diversifier aussi en termes de clientèle, d'avoir des gros clients, c'est bien, mais aussi des petits. Pour avoir une certaine agilité quand même. Et puis pareil, en fait, on a rebondi encore une fois. Du coup, on s'est dit, on va pas rester les bras croisés, attendre que les restaurants d'entreprise et les gens viennent au bureau. Et on a bien fait, puisqu'on a retravaillé par la suite en restauration collective, mais c'était en mi-2022, quoi. Donc c'était 2 ans après. Et en attendant, on a fait plein de choses parce qu'on est allé solliciter nos investisseurs, nos partenaires, nos clients, en leur disant voilà, on s'était basé là-dessus. Si vous entendez parler de projets de réemploi, de besoins très variés, n'hésitez pas à parler de nous. Et ça a fonctionné, puisque c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à travailler avec McDonald's, qui, eux, avaient subi évidemment le Covid, mais quand même moins que la restauration d'entreprise, parce qu'il y a eu un effet de latence énorme, avec les gens venaient moins au bureau, il y avait beaucoup de télétravail, voire de chômage partiel, alors que McDo, ils ont été fermés pendant la période de fermeture, et puis après, ils ont rouvert, les gens se sont précipités. Et il y a une loi en France qui a interdit au 1er janvier 2023 l'usage de vaisselle jetable sur place dès qu'on n'a plus de 20 couverts. Donc tous les fast-food, McDonald's, Burger King, KFC, etc., sont concernés par cette législation. En 2020, McDo, du coup, s'est retrouvé un petit peu. Ils ont beaucoup anticipé, parce qu'en 2020, ils avaient déjà une équipe projet là-dessus, mais ils se sont retrouvés face à un manque de solutions ou d'expertise sur le marché. Ils ont contacté des sociétés qui faisaient cette activité de vaisselle, donc typiquement dans la restauration collective. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur nous, restauration collective, qui leur a dit, écoutez, nous, on n'a plus de projet de réemploi, mais on avait bien avancé avec Kiso. Je pense que c'est là où c'est ces destins qui se provoquent, mais parce qu'on avait une bonne image malgré tout en interne, on était disponible, réactif, on avait des bonnes idées. Donc en fait, on a été recommandé à McDonald's, et puis on a fait une première mission de conseil, qui était vraiment du conseil où on les aidait à dimensionner le lavage des gobelets, parce que ils avaient deux trois machines à laver de la vaisselle dans les restaurants, mais aujourd'hui pour laver vraiment très peu de choses. Donc on faisait vraiment, on chronométrait, qu'on associait combien de temps en gros un gobelet en plastique qui met à sécher, et est-ce que avec 2000 clients par jour ça va suffire, quoi. Donc on a fait ça, et puis après, de fil en aiguille, on a allé sur des visions un petit peu plus, enfin les a aidés sur des problématiques plus stratégiques de comment les gens ramènent la vaisselle, quels vont être les taux de retour, combien ça va coûter au global par an, par mois, la solution, combien ça va coûter par restaurant. Ça a été notre capacité, je pense, aussi d'ingénieur à partir d'une problématique très opérationnelle qu'on nous a confiée, avec un besoin très, très concret. Là-dessus, on a fait nos preuves, dans le sens où on a apporté une réponse, une solution, et on a été capable ensuite d'aller proposer notre aide sur des sujets un petit peu plus généralistes et stratégiques pour enfin, du coup, on a fait la mission de plonge sur le lavage des gobelets. 3-4 mois après, on faisait une mission sur, d'un point de vue global, quel est le meilleur système de réemploi ? Est-ce que on met juste des affiches comme c'est le cas aujourd'hui et les gens les ramènent, mais du coup il y a un taux de perte puisqu'il y a des gens qui vont les garder. Est-ce qu'on met une consigne dessus, est-ce qu'on met on avait imaginé un système de
il n'y a pas les puces maintenant justement dedans, enfin, vu que je ne suis pas en France, je ne suis pas au courant forcément, mais ce n'est pas un système de puces à l'intérieur maintenant?
Ouais, il y a un système de traçabilité. Donc, on avait envisagé, voilà, la solution, on met rien du tout, on met en place une traçabilité, mais sans alarme, sans consigne, sans contrainte. On met en place une contrainte, on met en place des bonus. Si les gens les ramènent, ils ont un bonus. S'ils les volent, bon, on ne va pas aller leur prélever de l'argent ou leur courir après. Et donc, on avait imaginé différents scénarios. Et puis, chaque scénario, il y avait des taux de perte, de casse qui étaient différents. Et on voyait ce qui était plus rentable, sachant que pour un McDonald's, c'est 1500 restaurants en France. C'est assez énorme.
Ah, et 1% de différence à ce niveau-là, ça fait une grosse différence à la fin de l'année. Énorme. Ils étaient très très intéressés par vos résultats.
C'est ça, ils étaient super intéressés par nos résultats. Et nous, on s'est retrouvés, du coup, 6 mois après ces missions de conseil, on se disait, bah, c'est bien de faire du conseil, c'est super intéressant, c'est passionnant. Mais à la base, nous, on est une startup, quoi. On doit proposer
vous voulez créer un
service.
Produit, créer un système, alors que là, c'est bien pour survivre. Mais tu me dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est du conseil, c'est top pour vous, passer le Covid. Mais où est-ce que vous en êtes maintenant par rapport à ça?
Et ben en fait, ça nous a permis de faire évoluer encore une fois notre produit et finalement la proposition de valeur qu'on avait au tout début avec BNP, même avec Sodexo. On l'a complètement revu à ce moment-là, parce que nous, on avait 6 mois, 8 mois de cash, et on s'est dit avec Benjamin en début d'année, bon, bah, c'est super de faire du conseil avec McDo, mais on ne va pas faire ça toute notre vie. On n'a pas envie de faire une société de conseil, sinon il fallait rester chez McKinsey, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Et en fait, bah, de la vision qu'on avait, des problématiques stratégiques qu'on résolvait avec eux, il s'avérait qu'ils avaient un besoin de partenaires sur tout ce qui était traçabilité des contenants, donc pour la gestion des stocks, pour les inventaires et pour potentiellement les systèmes de consigne, aujourd'hui qui ne sont pas pour la consommation sur place, mais qui peuvent être envisagés un jour si la loi et la législation est étendue, par exemple, à la vente à emporter ou la livraison. Donc là, c'est évident que bon, si les gens n'ont pas de consigne en vente à emporter, ils ne reviendront juste jamais. Donc on a travaillé avec eux là-dessus, on leur a proposé ce produit et on a eu beaucoup de chance aussi parce que d'une part bon, on avait gagné la confiance de ce client là mais bon, c'est un peu atypique. McDonald's a une stratégie aussi de fournisseur unique et de relations privilégiées avec ses partenaires, ses fournisseurs, ses prestataires. Donc ils nous ont fait confiance et ça on a eu beaucoup de chance là-dessus parce qu'ils ont réussi à nous faire confiance malgré une société qui était assez jeune, du coup qui a peu de bilan annuel, de compte de résultats, enfin voilà. Et donc ça nous a permis de lever des fonds après, de nous développer, et aujourd'hui bah, c'est le produit finalement qu'on propose et qu'on propose d'ailleurs même en restauration collective, qu'on n'envisageait pas en 2020, mais finalement on fait de la traçabilité, de la gestion de stock, on fait des dashboards, on monte des données et on permet en fait à nos clients de gérer au mieux l'investissement qu'ils font dans de la vaisselle, s'assurer que ce soit rentable économiquement et écologiquement aussi, parce que c'était un vrai sujet, et c'est toujours un sujet sur les fast-foods, c'est qu'on remplace de la vaisselle en carton plastique qui pollue un peu parce qu'il y a usage unique, mais si on met en place demain de la vaisselle, McDonald's, c'est de la vaisselle en plastique, un plastique qui est renforcé, qui permet d'utiliser le gobelet des centaines et des milliers de fois. Mais si on ne l'utilise pas assez, bah, c'est évident que si on l'utilise qu'une fois, par exemple, ça pollue plus, quoi, parce que c'est juste plus épais et plus lourd. Donc, il faut s'assurer que ça revienne et qu'on l'utilise assez, quoi. Donc, nous, on garantit ça aussi à nos clients.
Ouais, c'est top. C'est une success story avec des rebonds malgré les mésaventures et Covid qui a impacté énormément d'entreprises. D'avoir réussi à survivre à ça en tant que startup, c'est incroyable. Et justement, en parlant de success story, il y avait un point qui m'avait aussi intrigué sur ton profil LinkedIn, c'est que tu as le point Forbes 30 Under 30. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a une liste, il y a plusieurs listes tous les ans par catégorie du magazine Forbes qui donne les 30 personnes qui ont moins de 30 ans à suivre dans différentes catégories, comme par exemple startup, renouvelable, environnement, etc., etc. Et bien entendu, d'un point de vue marketing, c'est extrêmement bien pour le mettre en avant et avoir une certaine crédibilité par rapport à des grosses entreprises, surtout quand on est fondateur de start-up. Mais une question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on en est à arriver sur cette liste ? Est-ce que c'est par nomination ? Est-ce que tu as une histoire derrière comment ça s'est passé pour arriver sur cette liste. Parce que c'est quelque chose qu'on peut voir. Et je me souviens quand j'étais en école, il y en avait qui rigolaient, qui disaient, ouais, un jour je serai sur la liste, je serai sur la liste, et comment on fait pour y arriver? Et ça restait un peu un mystère, quelque chose dont tu plaisantes, mais que tu vois pas forcément en vrai. Et vu que tu t'es arrêté sur cette liste, je me demandais comment ça s'était passé pour toi. Est-ce que tu étais au courant de comment ça s'est passé? Pas du tout. Quelle est l'histoire?
Ouais, c'est marrant. Bah écoute, l'histoire, je sais pas si elle va être décevante, mais elle est assez, en fait, elle est assez basique. Enfin, le process est pas extraordinaire. J'ai eu beaucoup de réactions de gens qui ont trouvé ça, d'amis ou de proches, qui trouvaient ça vraiment super et incroyable. Et en fait, du coup, je sais pas si c'est finalement, pour moi, enfin, j'ai pas eu l'impression que enfin, il y a eu un process assez transparent et en fait assez standard. Donc, j'ai peut-être pas trop réalisé. Puis après, ça m'a apporté, oui, ça apporte il y a un côté évidemment un peu de notoriété qui est toujours intéressant, que notamment bah, quand on doit convaincre des gens, des clients, des partenaires, enfin tout le monde, c'est sûr que c'est super positif, ça fait du bien à l'ego. Après, ça m'a apporté finalement, ça m'a apporté d'être invité à des événements de networking auxquels je vais pas parce que je suis papa, enfin j'étais papa à peu près au même moment, donc en fait j'ai jamais pu vraiment utiliser, exploiter ce truc-là. Mais ouais, c'est sympa. Et le process finalement c'est assez simple. Enfin moi je m'étais J'arrivais vers 28, 29 ans, donc je me disais si je veux l'être un jour, c'est maintenant ou jamais, quoi. Parce que là, dans un an ou deux, j'aurai 30 ans et donc ce sera trop tard. Donc je me suis dit, bon, comment on fait? J'ai contacté, j'avais eu un ou deux amis qui avaient monté des startups qui étaient devenues très grosses et qui l'étaient. Et en fait, ils m'avaient dit, bah, c'est assez simple, finalement, il y a un formulaire. Enfin, en fait, il y a des phases de sélection, entre guillemets, pendant lesquelles il y a un formulaire qui est ouvert. Alors, si tu veux, je peux te recommander, mais voilà, le formulaire, soit on le remplit pour toi, soit tu te le remplis toi-même. Tu réponds à tout un tas de questions. C'est très américain, donc il y a des questions assez intéressantes. Je me souviens, ça m'avait marqué, il y a même des questions un peu géopolitiques. C'est quoi votre vision de l'Europe, votre vision de la guerre en Ukraine. Enfin, il y a des choses un peu géopolitiques. C'est assez américain, mais on répond à ces questions-là. Ensuite, il y a un jury qui fait une présélection. Ensuite, il y a un entretien où on approfondit deux, trois trucs. Et puis, un jour, on reçoit un mail en disant bravo, vous êtes sur la liste, quoi.
D'accord, il n'y a pas une
Sachant
cérémonie qui se passe où vous êtes tous
Et après, il y a
réunis?
une cérémonie, ouais, il y a une petite cérémonie, il y a une petite cérémonie avec le cru de l'année, quoi. Et puis après, il y a plein de gens. Enfin, je pense que je sais pas comment ça marche, mais il doit y avoir une veille un peu, et puis il y a un certain nombre de réseaux qui se mettent à vous inviter parce que vous étiez sur la liste, donc vous êtes invité à des dîners, à des trucs de réflexion, plein de choses super intéressantes. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir le petit pips sur son profil LinkedIn, mais c'était assez, enfin, du coup, assez, enfin, voilà, finalement, assez standard, quoi.
Non, mais ça ne m'étonne pas trop, parce que je vois un peu différemment, mais j'ai participé au truc de prix franco-australien de l'année, donc j'étais finaliste sur le prix de français-australien de l'année. Et une fois qu'il y a quelqu'un qui te nomine, en fait, c'est assez standard, c'est moins évolué que ce que toi, tu as fait, parce que toi, tu as l'air d'avoir passé plusieurs entretiens, là, il fallait juste expliquer ce qu'on avait fait. Et après, il y avait un vote, donc beaucoup de personnes qui écoutent le podcast ont voté et je les remercie pour ça. Et puis derrière, je trouve, en fonction d'un mix de vote du public, plus vraiment ce que tu as fait en vrai, il y a un vrai jury de 10 personnes, de membres du gouvernement, enfin d'amis de la France, australiens, etc., qui vérifient. Et ils font une liste à la fin et là, tu es invité aussi. Donc c'est un peu similaire, même si c'est plus évolué dans ton cas, parce que c'est quand même une liste qui est assez connue et.
Ouais, je pense qu'il y a deux points, t'as raison, c'est essayer d'avoir quelqu'un qu'on connaît qui peut nous nominer ou qu'on peut référencer en disant, voilà, cette personne-là m'a nominé ou voilà, ça aide franchement. Et puis après, il y a évidemment ce qu'on a fait. Nous, on était sur des sujets d'impact, d'écologie. Il y en a des super beaux succès, il y a des startups sur l'environnement qui ont cartonné, mais il n'y en a pas assez, je pense, en tout cas. Et aujourd'hui, c'est des sujets, dans tous les cas, qui sont vraiment d'actualité, quoi. Donc, il y a cet effet-là aussi, après, de faire tout simplement quelque chose, se battre pour une cause j'ai pas envie de dire qui est tendance, mais qui est tendance parce que qui touche à un vrai problème de fond et de société, quoi.
Ouais, non, je comprends. Et d'ailleurs, en parlant de. J'ai une dernière question pour toi, en parlant de ça, de mettre ses compétences d'ingénieur au service du bien commun. Si tu devais donner conseil à un jeune qui sort d'école maintenant ou qui est dans ses premières années comme toi, tu l'étais au moment où tu as peut-être hésité quand tu étais chez McKinsey en tant que consultant, est-ce que je vais vraiment quitter mon job pour faire une startup alors que je ne sais pas encore ce que je veux faire? Tu as peut-être eu des moments de doute. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut être dans cette situation, qui aimerait faire quelque chose qui fait du sens pour lui, mais il hésite parce qu'il y a des contraintes financières, d'expérience, de carrière potentiellement? Qu'est-ce que tu pourrais dire comme retour d'expérience?
C'est super dur, c'est une question qui est très complexe, mais je pense que si c'est une envie qui est sincère, les difficultés par la suite seront... Enfin, au moment où je me suis lancé, j'envisageais absolument pas toutes les difficultés qu'on a pu traverser. Mais heureusement, du fait de travailler sur une cause déjà qui m'a semblé, enfin, qui était vraiment importante pour moi et qui m'intéressait, j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait si je faisais sans aucun jugement, mais un service qui n'aurait pas eu d'impact social ou environnemental d'une certaine manière. C'était juste pour gagner de l'argent ou faire du chiffre d'affaires. J'aurais pas pu, et avec mon associé, on n'aurait pas été aussi résilients. Parce qu'à chaque fois, on se disait non, mais c'est pas que pour nous qu'on le fait, c'est que vraiment derrière, il y a un truc, ça nous écœure quand on se prend dans la forêt de voir des emballages, des machins, quand on est sur la plage, des bouchons de bouteilles qui traînent dans le sable, des mégots de cigarettes. Donc, il y avait vraiment ce fil qui a fait qu'à chaque fois, on a traversé toutes les épreuves qu'on a eues, qui se sont avérées être beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait, je pense. Il y a eu le Covid, il y a eu des trucs quand même assez dingues. Mais malgré tout, bah, en fait, à chaque fois, on y allait et puis on se battait pour, et les planètes se sont toujours alignées, en fait. Donc je pense que le message, ce serait un petit peu de... Si cette motivation, elle est profonde, ça peut être plein de choses, et j'ai aucun jugement, ça peut être de gagner le plus d'argent possible. Si c'est sincère, ça vous aidera à surmonter toutes les difficultés, parce que c'est, y a pas de... C'est un truc que j'ai appris aussi, c'est qu'il n'y a pas de overnight success, quoi. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Il y a du storytelling, parfois après, a posteriori, d'entrepreneur ou de société, mais le succès, il met du temps à se bâtir. Dans tous les cas, c'est des apprentissages qui sont juste énormes. C'est des rencontres qui sont belles. Et si cette motivation, elle est sincère, bah, je pense qu'il faut croire en soi, quoi. Et ce serait peut-être ça le message, ce serait de croire en soi. Si vous croyez suffisamment en vous, que vous mettez la sincérité et l'énergie, et que vous vous battez pour, vous irez sans doute beaucoup plus loin aussi que ce que vous pensez, et on vous aidera, quoi.
Croire en soi et croire en son projet pour réussir à surmonter les obstacles.
Ça, exactement, ouais.
Bah écoute, c'est un beau message de fin. Merci beaucoup François, en tout cas, on va repasser en off, mais merci beaucoup d'avoir accepté de prendre une heure de bon matin pour discuter avec nous sur ce podcast.
Avec plaisir, merci beaucoup, Thomas.
Et si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a un podcast qui s'affiche à l'écran, un podcast avec un autre invité exceptionnel. Dans tous les cas, un grand merci à vous, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.